se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC.
Soyez les bienvenus dans la matinale week-end d'RMC. Toute l'équipe est là pour vous accueillir.
Il est 7h. Un tout nouveau journal avec vous, Stéphane Jeunesse, bonjour.
Bonjour à tous. 4000 grenades tirées, des dizaines de blessés, véritable champ de bataille hier à Sainte-Soline contre le projet de méga-bassine. La réforme des retraites et sa contestation qui ne faiblit pas, de nouveaux rassemblements encore hier. Et puis du rugby, avec le choc ce soir, le derby francilien, Stade Français, Racing 92. Ce sera en clôture de la 21e journée du top 14.
Et à 7h10, vous avez la parole. À vous de nous dire, les violences éclipsent-elles le message des manifestants, que ce soit lors des manifestations anti-bassines ou contre la réforme des retraites. On vous attend donc au 32-16, toutes vos réactions.
Et puis l'homme du jour, le ministre de cette réforme, Olivier Dussopt, portrait à 7h20.
La matinale week-end.
C'était attendu et c'est ce qu'il s'est passé, des violences entre manifestants et forces de l'ordre à Sainte-Soline hier.
5 personnes en urgence absolue ce matin, plusieurs milliers de manifestants qui étaient réunis sur ce site des Deux-Sèvres pour lutter contre le projet de méga-bassine. Manifestation illégale où 6000 personnes étaient réunies d'après les autorités, au moins 20 000 d'après les organisateurs. Léna Marjac, vous êtes sur place pour RMC, affrontement donc auquel vous avez assisté, Léna.
Oui, c'était des heurts extrêmement violents. Alors certains militants ont été touchés aux chevilles, aux genoux par des tirs de LBD notamment. Et j'ai même pu apercevoir certains allongés par terre, dents cassées, tête en sang. En tout, selon les organisateurs, 200 blessés, dont 3 en urgence absolue. Du côté des forces de l'ordre, 28 gendarmes blessés, dont 2 en urgence absolue. C'est un lourd bilan qui montre la violence de ces affrontements. Parce que l'objectif pour les militants, c'était de rentrer dans cette méga bassine. Une partie était déterminée et prête à en découdre. Mais ils ont fait face à des forces de l'ordre mobilisées en nombre. Pour rappel, 3200 policiers et gendarmes. Alors tirs de mortiers d'artifice, des lancers de pierres, de cocktails Molotov par les manifestants. Et en réponse, les forces de l'ordre ont utilisé 4000 grenades de désencerclement et de gaz lacrymogène. 4 véhicules de la gendarmerie ont également pris feu. Mais face au trop grand nombre de blessés du côté des manifestants, au bout d'une heure et demie d'affrontement, ils ont dû rebrousser chemin. Mais les militants l'assurent, leur détermination reste intacte.
Léna Marjac, envoyée spéciale de RMC à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres.
Des violences, il en est aussi question à Paris, puisque le parquet ouvre une enquête judiciaire contre la Brave M.
Enquête après la diffusion par le média Loopsider d'un enregistrement où l'on entend des policiers de cette brigade motorisée menacés et insultés des manifestants lors de rassemblements contre la réforme des retraites. Et à 2 jours d'une nouvelle mobilisation, des manifestations non autorisées ont encore eu lieu hier soir dans plusieurs villes du pays. Des manifestations également autorisées cette fois. Eh bien, elles se sont tenues dans le calme un peu plus tôt, comme à Orléans par exemple, où Anna, enseignante, faisait partie du cortège.
J'ai déjà fait d'autres grèves dans ma vie en tant qu'enseignante et généralement au bout d'un moment je les compte. Parce que je me dis quand même que ça va se sentir. Mais là, il y a une telle arrogance, un tel mépris depuis le début de la part du gouvernement que j'en suis à plus compter, à me dire que je continuerai à les faire systématiquement. Donc cette réforme, c'est vraiment la goutte d'eau en fait. Mais quelque part, c'est bien qu'elle soit là, cette goutte d'eau, parce qu'elle nous a fait relever la tête et retrouver une dignité. Je crois que j'ai jamais vu autant de manifestations qui, les unes après les autres, restent persuadées qu'on peut gagner.
Ces manifestations qui commencent à inquiéter sérieusement les commerçants du pays, Stéphane.
Oui Mathieu, parce que déjà ils craignent pour leurs locaux en cas de débordement, mais aussi parce que les centres-villes se vident, comme à Nantes, où certaines structures ont vu leur chiffre d'affaires baisser de 15 à 30% par rapport aux années précédentes, Pierre Bourgès.
Dès qu'il y a trop de gaz lacrymogène dans le centre de Nantes, Dominique décide de baisser le rideau de son magasin, tant pis pour les clients.
Depuis le début du mois, je suis à moins 70% de mon chiffre d'affaires par rapport à N-1.
Pour lui, un problème principal, l'accès au centre-ville.
Le centre-ville de Nantes est accessible par les transports en commun qui sont, par mesure de précaution, systématiquement fermés. Donc forcément, les gens ne viennent pas dans le centre-ville.
Les restaurants sur le cortège perdent entre 50 et 90% de chiffre d'affaires un jour de manifestation, selon le GNI, un syndicat de la profession. Mais c'est aussi le cas pour d'autres magasins, comme celui d'Arnaud.
Depuis 15 jours, c'est, on va dire, 15 000 balles de chiffre d'affaires en moins. On fait comment ? On me les donne ? L'État va me dédommager ?
Alors il lance une initiative, une affiche affiches sur les vitrines pour inciter à soutenir les commerçants.
Centre-ville cassé, centre-ville isolé, hashtag laissez-nous travailler, arrêtez de tout casser, arrêtez de nous prendre en otage, vive Nantes quoi.
Je comprends pas qu'on manifeste encore quoi, stop quoi.
Selon lui, l'initiative est soutenue par la plupart des commerçants du centre-ville.
Le reportage de Pierre Bourgès à Nantes pour RMC.
Le trafic illégal d'or en Guyane a fait une victime hier, Stéphane.
Un gendarme du GGN tué par balle lors de cette mission contre ce fléau. Il y menait une opération d'infiltration. Emmanuel Macron salue le courage et la mémoire de ce sous-officier de 35 ans, papa de deux enfants. Le gouvernement français qui continue d'intensifier sa lutte contre l'orpaillage. Pourtant, le phénomène persiste. C'est ce que nous explique François-Michel Letourneau, spécialiste de l'Amazonie.
Par rapport au début des années 2000, l'évolution est importante puisqu'on a quelque chose comme un Far West qui s'était un petit peu installé dans la forêt guyanaise et maintenant il y a une action de l'État qui fait que tout ça est sous pression. C'est plusieurs milliers de patrouilles par an, mais la Guyane est très grande et donc malgré l'intensification de la lutte, le phénomène d'orpaillage reste résiduel. Les militaires disent souvent qu'en Guyane, ils tondent la pelouse, c'est-à-dire qu'ils passent à un endroit et puis l'activité se réimplante et ainsi de suite. Malgré tout, il y a une activité résiduelle, peut-être une dizaine de milliers d'orpailleurs très mobiles et qui sont pas forcément faciles à éliminer de la forêt.
Le Mississippi dévasté par des tornades la nuit dernière, au moins 25 personnes ont perdu la vie. Et aux États-Unis justement, où Donald Trump a tenu son premier meeting de campagne hier en vue de la présidentielle 2024. Menacé d'inculpation, il a clamé son innocence encore une fois, affirmant même qu'il était, je cite, l'homme le plus innocent de toute l'histoire des États-Unis.
Mais oui, t'as qu'à croire. Allez, 7h06, les sports, Stéphane, avec ce gros coup hier de La Rochelle, 21e journée de top 14.
Les Rochelais qui ont surclassé Bordeaux 36-6, Toulouse s'est incliné à Castres, le Loup qui recevait Toulon n'a pas réussi, une victoire du RCT 27-23. Aujourd'hui, c'est le derby francilien, Stade français qui reçoit le Racing 92. Pour le moment, les Racingmen sont 8e au classement, pas encore qualifiés donc pour les 8e, pour les phases de finale, ce qui inquiète Baptiste Chouzenou, le 3e ciel et blanc.
Bien sûr qu'il y a de l'inquiétude, heureusement qu'il y en a un peu parce qu'il faut qu'on prenne conscience de où on est. On n'a pas commencé la saison pour être à ce niveau-là. On est inquiet et on essaie de prendre conscience que la saison est presque finie et que si on ne réagit pas de suite, ben, ça sera trop tard et qu'on finira 8, 10e. On est inquiet mais on est prêt à réagir.
Baptiste Chouzenou, troisième ligne du Racing 92, Stade français Racing 92, c'est à 21h05, à vivre en direct sur RMC, évidemment.
Et du foot après la victoire 4-0, ça fait tout bien, toujours bien de le redire, sur les Pays-Bas, la France a trouvé son attaquant de pointe.
Oui, Marguerite, j'ai nommé Randal Kolo Muani, titulaire pour la deuxième fois chez les Bleus vendredi soir. Il a été convaincant, Fabrice Hawkins.
Randal Kolo Muani a été dans tous les bons coups des Bleus. Impliqué sur les trois premiers buts, il a confirmé les espoirs placés en lui par Didier Deschamps.
Il est en pleine confiance, il a cette capacité de déplacement, de percussion, de dribble. Avec cette qualité aussi de vitesse, ça a été une très très bonne chose dans notre animation offensive.
Le joueur de 24 ans va vite, son profil est plus complet que celui d'Olivier Giroud, son principal concurrent. Sur le troisième but, il a intelligemment laissé filer la passe d'Aurélien Tchouaméni pour Kylian Mbappé. Randal Kolo Muani offre beaucoup de solutions, comme l'explique Tchouaméni justement.
Il a été intéressant, on a pu le trouver entre les lignes, aussi en appui. Et puis on sait que c'est un joueur de profondeur, donc dès qu'on est un petit peu en difficulté, on sait qu'on peut jouer un peu plus long pour le trouver.
Déjà buteur en demi-finale lors de la Coupe du Monde, Randal Kolo Muani peut s'affirmer en tant que titulaire s'il marque contre l'Irlande.
Fabrice Hawkins, dans le journal de Stéphane Genest. Merci beaucoup, on se retrouve tout à l'heure.
À tout à l'heure.
À 8h. Il est 7h08, soyez les bienvenus sur RMC. Le 32-16 est ouvert, vous le savez, à n'importe quel moment. Et c'est d'ailleurs le numéro que vient de composer Thomas, vous allez comprendre. Bonjour Thomas.
Oui, bonjour.
Vous êtes fonctionnaire de police, Thomas,
tout
en région
à Paris.
Parisienne. Et vous avez composé le 32-16 ce matin pour réagir à ce que nous disait Tony, qui était avec nous aux alentours de 7h moins le quart, au sujet de Sainte-Soline, ses affrontements hier. Tony disait, ce sont les forces de l'ordre qui provoquent la violence. Vous êtes fonctionnaire de police, votre réponse?
Ma réponse déjà, c'est que bon, il est un peu mal informé sur certains trucs. Il nous parlait de 2008 et de Nicolas Sarkozy, qui avait changé le nom pour Gardien de la Paix, qui était devenu force de l'ordre, ça n'a rien à voir. Gardien de la paix, c'est un grade de la police nationale, et force de l'ordre, c'est ce qui encadre, enfin, c'est ce qui génère, enfin, c'est ce qui regroupe en fait
la dénomination générale.
Voilà, on est d'accord. Donc c'est deux choses différentes. Il faut bien expliquer aux gens ce que c'est. Et puis moi je pense pas que ce soit les forces de l'ordre qui engendrent la violence, parce qu'on est on était quand même sur un rassemblement de 30 000 personnes. C'est quand même pas rien pour un mouvement écologiste.
Avec une partie qui était aussi très pacifiste. Hein. Il y avait 1000 activistes radicaux, et puis il y avait aussi une manifestation avec des militants pacifistes.
Mais alors,
Justement, Thomas, moi, je me demande, vous dites, alors, 30 000 manifestants, 1000 radicaux, on va dire, et puis 3 000 policiers et gendarmes. Pas moyen d'éviter les débordements?
C'est-à-dire que quand on fait face à des cocktails Molotov, c'est un peu plus compliqué. Les forces de l'ordre, ils utilisent des moyens, des armes de défense collectives qui leur sont données par l'État, et c'est pas des cocktails Molotov. Donc c'est quand même deux poids deux mesures. C'est pas du tout les mêmes armes.
Ça vous est déjà arrivé?
On a quand même des cocktails Molotov. Vous avez vu les camions de CRS, les camions de gendarmerie mobile qui
ont les cramés. Images étaient impressionnantes, c'est vrai.
Qui étaient brûlés. On est arrivé à un niveau de la violence qui est quand même assez important.
Pas seulement des cocktails Molotov, des mortiers d'artifice, des chandelles romaines, etc.
Des pierres, des pierres maintenant, vous l'avez vu, des pierres avec des clous plantés dedans.
Ça vous est déjà arrivé ou pas, Thomas, vous, de devoir encadrer une manifestation et de vous retrouver pris au milieu de cocktails Molotov? Comment vous réagissez? Quels sont les ordres qui sont donnés à ce moment-là?
Normalement, déjà, de base, on est sur des gens qui sont là déjà illégalement, puisque la manifestation n'est pas autorisée. Donc, force doit rester à la loi, et la loi dit vous ne pouvez pas être là. Donc, il faut faire évacuer les gens. Maintenant, il y a des ordres qui sont bien donnés, qui sont hiérarchisés, qui sont donnés. Maintenant, quand vous retrouvez acculé avec des cocktails Molotov, ça devient très compliqué. C'est une situation qui devient presque angoissante, oppressante. Il faut se défendre. Et encore une fois, on ne peut pas se permettre de reculer.
Quitte à vous montrer, vous aussi, violent.
Violent, on utilise la force, on emploie la force. Maintenant, avant d'employer la force, il y a quand même des sommations qui sont données. On demande aux gens de se disperser. On les informe bien que s'ils ne se dispersent pas, la force sera employée. Les gens décident de rester. S'ils décident de rester, c'est qu'ils sont prêts aussi à ce qu'on emploie la force à leur rencontre. Donc après, il ne faut pas s'étonner et se dire « Oh là là, les policiers ont été violents, ils ont été prévenus. » Et
merci,
ils sont
Thomas.
Là de leur plein gré.
Ouais, vous êtes donc policier. Merci pour votre témoignage ce matin. C'est aussi
nécessaire.
Important et nécessaire d'avoir tous les points de vue. Et c'est ce qui se passe sur RMC en toute liberté au 32-16. Vous continuez d'ailleurs à réagir dans la matinale week-end avec cette question. Les violences éclipsent-elles le message des manifestants? Alors, on parle soit des manifestations anti-bassines hier ou contre la réforme des retraites ces derniers jours. Vous réagissez au 32-16 ou sur notre application RMC Direct Studio. C'est à vous de nous dire et c'est dans deux minutes. À tout de suite.
RMC 6h-9h, la matinale week-end.
Marguerite Dumont, Mathieu Rouault.
Allez, 7h13 sur RMC. Oui, nous allons poursuivre le débat. Nous allons continuer de vous écouter. Vous avez la parole. Le 32-16 est ouvert.
Il est 7h13. C'est l'heure de vous écouter.
RMC, à vous de nous dire.
Bonjour Margot Bourdin.
Bonjour Mathieu. Bonjour Marguerite. Bonjour à tous.
Cette question d'actualité que l'on vous pose depuis hier sur notre compte Twitter. Retraite, bassine, les violences éclipsent-elles le message des manifestants?
Et oui, on aimerait pouvoir parler du fond, débattre sur l'utilité ou non de stocker de l'eau l'hiver pour arroser les champs l'été. Mais ce qu'on retient de cette journée d'hier à Sainte-Soline et de cette manifestation contre les projets de méga-bassines, manifestation, on le rappelle, interdite par la préfecture, eh bien ce sont ces débordements et ces violents affrontements. 6000 manifestants réunis selon la préfecture, 25 000 selon les organisateurs, 3200 policiers et gendarmes déployés, certains en quoi des plusieurs centaines d'activistes radicaux, cocktails explosifs et une journée qui dégénère très vite dans des affrontements. Des tirs de mortiers d'artifice et d'explosifs sur les forces de l'ordre qui répliquent par des gaz lacrymogènes et des grenades de désencerclement. Selon le parquet de New York, 3 manifestants et 2 gendarmes ont été hospitalisés en urgence absolue. En tout, 7 manifestants et 28 gendarmes ont été blessés selon les chiffres officiels, 200 blessés selon les organisateurs. Pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ces violences sont inqualifiables.
Malgré cette interdiction de manifestation, des milliers de personnes se sont rendues sur site, dont plus d'un millier de personnes extrêmement radicalisées, extrêmement violentes, qui s'en prennent aux gendarmes physiquement. Je veux évidemment leur apporter mon soutien total. Ce déchaînement de violence est absolument inexcusable. L'ordre n'est pas le désordre, ce ne sont pas les forces du désordre qui vont l'emporter.
La Première ministre dénonce également un déferlement de violence intolérable et met en cause l'irresponsabilité des discours radicaux qui encouragent ces agissements. Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas du même avis, et réagit sur Twitter. Assez de violence policière à Sainte-Soline, assez. De son côté, l'Élysée condamne une violence désinhibée sur tous les sujets.
Oui, parce que jeudi, en marge de la 9e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, il y a aussi eu de nombreux débordements et des violences en France.
Oui, jusqu'à présent, les cortèges avaient été pacifiques, mais le mouvement a pris un tournant depuis l'utilisation du 49.3 par le gouvernement dans de nombreuses villes, avec des violences en marge des cortèges, de violents affrontements aussi avec des forces de l'ordre à Rennes, des jets de projectiles contre les forces de l'ordre à Lyon, à Lorient, le commissariat a été pris pour cible, comme le tribunal à Nantes, à Bordeaux, tentative d'incendie sur le porche de l'hôtel de ville. Un peu plus tôt dans la journée, le patron de la CFDT avait tenté d'appeler à la non-violence afin de garder l'opinion du côté des opposants. Ce vendredi sur RMC, l'insoumis François Ruffin a condamné ces violences. Je ne suis pas partisan de la violence, mais estime que la balle est dans le camp présidentiel pour ramener l'ordre. C'est simple, c'est retirer ce texte. Hier, des manifestations un peu partout en France se sont déroulées dans le calme.
Alors à vous de nous dire, est-ce que ces violences éclipsent les messages des manifestants, le résultat de notre consultation Twitter ?
Eh bien ce matin, vous répondez oui à 63% à notre consultation sur Twitter.
Un oui assez ferme et franc. Qu'en pensez-vous au 32-16 ? Vous êtes les bienvenus cette 7h16. Tiens, Marguerite, je lis deux messages ce matin que nous venons de recevoir sur l'appli RMC à propos de ces manifestations. Julien nous écrit les gilets jaunes, les manifs anti-retraite, Sainte-Soline, toujours les mêmes images et les mêmes casseurs excités, voire défendu par les mêmes militants et élus de la France insoumise. Steven nous dit aussi, que retiendra-t-on des deux quinquennats d'Emmanuel Macron depuis que les gilets jaunes, tout n'est que violence, tout cela pour faire plaisir à la finance internationale. 32-16 encore une fois ce matin. Pour réagir et pour témoigner, comme le faisait Thomas, le policier que nous avons eu il y a quelques instants, pour remettre aussi un peu les choses dans les faits. Et c'est important de le faire.
C'est important. Après, voilà, on a tous les points de vue aussi ce matin sur RMC. Thomas qui nous disait que, à un moment, les forces de l'ordre, elles ne pouvaient plus reculer. C'était pas forcément, voilà, de la violence pour la violence, mais que quand on les attaquait, il y a un moment, ils devaient défendre.
Je lisais le message de Julien. Il nous rejoint au 32-16. Bonjour, Julien.
Oui, bonjour à tous.
À Montpellier, Julien.
Ouais, toujours pareil, ouais.
Toujours pareil, et c'est d'ailleurs aussi ce que vous dites au sujet de ces violences. Toujours les mêmes images. J'ajouterais, oui. Julien, toujours encore un peu plus violente.
Mais toujours encore un peu plus violente, mais toujours encore plus excitée par les certains partis de gauche. Hein, et voilà, c'est toujours pareil. Et on les invite en plus sur les plateaux pour qu'ils distillent leur discours mortifère. Alors bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Puis à un moment donné, c'est plus des manifs, ces gens-là, c'est des casseurs, c'est de la guérilla urbaine. Et la guérilla urbaine, je suis désolé, il y a que l'armée qui sait faire.
Alors, pour vous, finalement, le message est complètement éclipsé, même si, par exemple, pour les manifs anti-bassines comme pour les retraites, la majorité des manifestants sont pacifistes.
Oui, mais la majorité des manifestants, quand vous écoutez la police, il y a certains manifestants qui vont même se mettre, qui s'interposent entre les casseurs et la police pour les défendre, donc. Je veux dire, à un moment donné, on peut pas. On se plaint tout le temps que l'État est laxiste. Moi, je suis désolé, ça me fait doucement rigoler, j'habite dans un quartier populaire. Quand c'est Mohamed et Mourad qui foutent le bordel, il faut envoyer l'armée, il faut quasiment les tirer à balles réelles. Et là, parce que c'est les petits-fils de bourgeois qui jouent aux rebelles de la rue, il faudrait rien dire.
Julien, je vois où vous voulez en venir. Simplement,
mais non, mais
ça veut
dire.
Mais bien sûr, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il ne faut plus organiser de manifestations, qu'il ne faut plus protester contre rien du tout.
Ils prêchent la violence, donc il faut répondre. Moi, je suis désolé, à un moment donné, l'État a le monopole de la violence et une force doit rester à l'État.
Donc c'est l'escalade, Julien.
Mais oui, mais il y a pas. Qu'est-ce que vous voulez faire ? On les laisse faire, du coup.
Mais vous attendez quoi, Julien ? Que ça pète ? Qu'il y ait des morts ?
Mais peut-être pas des morts. Mais je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Pensez que les CRS, les gardes mobiles et tout ça, ils vont rester des mois et des mois à supporter ça ? On s'est tapé déjà les gilets jaunes pendant 2-3 ans.
Comment en sortir ?
Je suis désolé.
Comment en sortir ? C'est bien la question. Et c'est d'ailleurs la question que je poserai tout à l'heure à Benjamin Haddad, député Renaissance de Paris, qui sera notre invité à 7h40.
La France en chemise, parce que moi, je les appelle pas les insoumis, parce qu'ils sont plus soumis que les autres, ceux-là. Ils sont soumis à leur chef. Mais la France en chemise, à un moment donné, à force d'exciter la haine, il va quand même falloir se poser la question, à quoi servent ces gens-là ? S'il n'y en a pas certains qu'on peut destituer de leur mandat de député.
Merci beaucoup, Julien, de votre réaction ce matin au 32-16. Vous avez tous la parole, évidemment. On poursuit le débat jusqu'à 9h. Bonne journée à Montpellier, Julien.
Bon courage à vous.
Et bon dimanche, à bientôt, 7h20.
À suivre dans la matinale week-end.
Il mange du steak tartare à 5h du matin, oui, et il vient de dévoiler son homosexualité. Il se dit toujours aussi déterminé malgré les attaques. De qui s'agit-il ?
Olivier Dussopt, et oui, c'est l'homme du jour dans le portrait.ca dans une minute sur RMC.
RMC, la matinale week-end.
Soyez les bienvenus, c'est la matinale week-end, vous êtes chez vous sur RMC. Dans un instant, on va se marrer tous ensemble, ça va nous faire du bien ce dimanche matin avec notre cher Arnaud Demanche.
Mais d'abord, l'homme du jour.
RMC, la matinale week-end,
le portrait de Poincar.
C'est Olivier Dussopt, le ministre du Travail en première ligne de la contestation contre la réforme des retraites.
Portrait d'un homme en permanence ciblé. Avec vous, Cyprien Pézeril, aujourd'hui, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour Marguerite.
Olivier Dussopt qui se remet à peine des débats à l'Assemblée.
Oui, comme si pour lui, il y avait urgence à se révéler. L'homme qui peut peut-être encore enchanter, alors que le politique qu'il est sans doute durablement impopulaire. Olivier Dussopt vient de faire son coming out. « Je suis homosexuel », dit-il au magazine Gay Têtu. « Ce n'est ni un sujet, ni un secret », assure-t-il néanmoins, jurant que le timing de cette annonce n'est pas calculé. Depuis plusieurs semaines en tout cas, il cherche à modeler son image. Olivier Dussopt le dure. Ses proches racontent dans la presse qu'il se lève tous les matins à 5h15 pour faire des pompes et des abdos avant d'enchaîner sur un régime hyper protéiné à base de steak tartare. Cette question d'image, c'est on ne peut plus important, tant l'examen de sa réforme des retraites à l'Assemblée a avant tout ressemblé à son procès. Le procès de l'homme politique, décrit à l'envi comme le techno sans cœur venu de la gauche. Celui donc qui a trahi en entrant dans un gouvernement macroniste en 2017. Depuis, ses échanges avec son ancien camp ne sont qu'invectives. Et ajoutez à cela des insoumis qui oublient volontairement la lettre P de son nom pour l'appeler Dussopt et non Dussopt. Ou encore un autre qui le traite d'assassin avant certes de s'excuser.
On le comprend, Cyprien, Olivier Dussopt est abîmé, mais il commence à sortir de la lessiveuse.
Oui, depuis qu'Emmanuel Macron a choisi de reprendre les choses en main en assumant la confrontation directe avec les manifestants. Mais est-ce pour autant du répit pour son ministre du Travail ? Bien pas si sûr. Hein. Selon mes informations, un député insoumis est en train de faire fabriquer 100 boîtes à meux, Olivier Dussopt. Oui, vous savez, ces jouets pour les enfants que l'on retourne et qui font un bruit de vache. Eh bien là, ce sera personnalisé avec la phrase « Personne n'a craqué », une phrase prononcée, hurlée même par Olivier Dussopt à l'Assemblée, la voix éraillée. Coût de la blague ou de la provocation, c'est selon 400 euros. Et puis, quel est son avenir face aux rumeurs d'un prochain remaniement ? Va-t-il rester aux manettes ? En tout cas, le président de la République l'a toujours soutenu, même lorsque la justice l'accusait et l'accuse encore de favoritisme. Emmanuel Macron compte d'ailleurs sur lui pour préparer une loi sur les conditions de travail. Elle doit être examinée avant l'été. Un de ses anciens amis socialistes m'a raconté qu'Olivier Dussopt lui avait confié que son rêve d'enfant, c'était d'être ministre, ce qui est donc bel et bien le cas aujourd'hui et qui pourrait donc encore le rester quelque temps.
On en a appris des choses sur Olivier Dussopt. Merci Cyprien Pézeril. Ce portrait est à retrouver en podcast sur l'appli RMC.
Allez, 7h24, c'est l'heure de sourire.
RMC, la matinale week-end.
C'est tous les jours de manche.
Et même de rire, de bon cœur, comme disait un responsable suisse. Le meilleur d'Arnaud Demanche tous les samedis, tous les dimanches. En cuisine ce matin avec Joey Star, parce qu'il fait une apparition dans Top Chef.
Voilà, et alors à l'inverse, Cyril Lignac vient de finir un album de rap conscient.
C'est là qu'il fince, on met les herbes de Provence sur tes côtelettes, mets du piment d'Espelette.
Bon bref, Joey Star se lance dans la cuisine. En 20 ans, il est passé de suprême NTM à suprême de volaille. On change de registre. Qu'est-ce qu'on mange dans ce restaurant ? Des pains, évidemment, et puis du riz. Oncle Benz. Alors, il paraît que c'est très bon, hein ? Les critiques sont excellentes et en même temps, c'est normal. Tu sors du restaurant, t'as Joey Star qui te demande « Alors, t'as aimé ?» Tu vas pas lui dire « C'est un peu trop salé, t'as pas envie que ce soit ton dernier repas. » Tu dis « Oh, c'était formidable, c'est comme la dame de la cantine hein, quand on était petit, tu te méfies. » On vit quand même une drôle d'époque. En 2023, Joey Star devient chef d'un restaurant haut de gamme et c'est Emmanuel Macron, un banquier d'affaires fan de Valéry Giscard d'Estaing, qui fout le feu au pays. Emmanuel Macron, il nous met la fièvre sociale pendant des heures, des mois, des années. La semaine prochaine s'annonce très chaleureuse d'ailleurs. Allez, bon week-end. Bon week-end à tous.
Chaleureuse.
Et à lundi.
Arnaud Demange, que vous retrouverez en effet lundi matin en direct sur RMC à 7h20 et 8h20, évidemment dans Apolline Matin.
Et puis il y a les podcasts, si vous voulez vous refaire tout Arnaud Demange de la semaine, c'est l'appli RMC, la bien totale. Évidemment. Allez, dans quelques minutes, il sera 7h30.
Et un nouveau journal avec à la une, 5 blessés toujours en urgence absolue ce matin, un niveau de violence rarement atteint hier à Sainte-Soline, manifestation contre les méga-bassines.
Et on y reviendra avec notre invité de 7h40, le député Renaissance de Paris, Benjamin Haddad, à tout de suite. Dimanche 26 mars, excellent réveil à l'écoute d'RMC.
Il est 7h30. C'est l'heure d'un tout nouveau journal avec vous, Maxime Gras, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. Des scènes d'une extrême violence qui marquent la rétine à Sainte-Soline. Récit d'une manifestation qui tourne à l'émeute. Une mission de lutte contre l'orpaillage illégal termine en drame. Un gendarme a été tué hier en Guyane. La Rochelle se rapproche de Toulouse au sommet du top 14. Les Maritimes ont surclassé Bordeaux et reviennent à 6 points du leader.
Rendez-vous à 7h40 tout à l'heure. Notre invité Benjamin Haddad, député Renaissance de Paris.
Juste après le coup de main conso, je vous ai préparé un repas bon pour la planète et votre portefeuille. Des bassines au chaos, le pas a été franchi. Ça s'est passé hier à Sainte-Soline.
La deuxième manifestation contre la méga-bassine à usage agricole a pris un tournant d'émeute dans les Deux-Sèvres. 4 véhicules de gendarmerie incendiés, mais surtout 5 blessés en urgence absolue, ont été pris en charge au cours des heures qui se sont intensifiées dans l'après-midi. Sur place, les militants racontent la violence de la manifestation. Un reportage de Marion Gauthier et Léna Marjac.
C'est bien, on ne va pas faire des gros embouteillages sur la route pour permettre l'évacuation des blessés.
Des pieds boueux, des traits tirés, une foule nerveuse s'agite autour des tentes d'infirmerie. Pourtant, beaucoup de manifestants évoque le calme du début de rassemblement, puis le choc.
On est content de rentrer en un seul morceau.
Valentin est venu du sud de la France pour s'opposer au projet de bassine.
Et, enfin, je ne m'attendais pas à sans partout, toutes les deux minutes entendre médic, médic. Je pense qu'on ne réalise pas encore ce qui s'est passé.
Une journée qui est particulièrement traumatisante et violente.
Mélanie est assise sur un banc, le regard dans le vide.
Moi, ce que je déplore, c'est le fait d'interdire la manifestation, fait monter une escalade de part et d'autre. Bah, on termine une journée en étant désespérée. Espérer, pas écouter.
La gendarmerie assure que les assaillants ont fait usage de mortiers d'artifice, de cocktails Molotov. Elle dit avoir riposté avec 4000 grenades et des lanceurs de balles de défense.
On a eu plus de 3000 forces de l'ordre qui étaient là pour protéger un cratère vide.
S'insurge Adeline du collectif Bassine. Non merci.
Ça ne décourage pas, je pense que ça fait monter encore plus la colère.
Tant que les méga-bassines ne sont pas abandonnées, conclut-elle, on sera là pour continuer.
Gérald Darmanin, le ministre d'Intérieur, condamne ces violences et accuse notamment l'extrême gauche d'en être responsable.
En Guyane, la mort d'un gendarme hier.
Membre de l'antenne du GIGN de Cayenne, le militaire était engagé dans une mission de lutte contre l'orpaillage illégal, une infiltration qui a dégénéré. Les précisions de Kevin Gasser.
Le militaire, âgé de 35 ans, père de deux enfants, a été tué par balle dans le parc amazonien de la Guyane sur le site de Dorlin, un des plus prisés par les chercheurs d'or clandestins. Il menait une opération d'infiltration accompagnée de deux autres gendarmes du GIGN, 4 militaires de l'armée et un infirmier. C'est au petit matin hier que le groupe a été pris à partie par une bande armée. Après des échanges de tirs, le militaire touché est décédé malgré les premiers secours prodigués par l'infirmier. La bande armée a été identifiée et est actuellement recherchée. Le parquet a ouvert une enquête. En 2012, sur le même site, deux militaires avaient été tués et deux gendarmes grièvement blessés lors d'une opération anti-orpaillage illégal.
Plus de 1000 opérations ont été réalisées en 2022. D'après les opérateurs miniers locaux, 10 tonnes d'or seraient extraites illégalement de Guyane chaque année par des orpailleurs clandestins.
Et puis, une plainte déposée contre un policier de la brigade motorisée.
Dans le prolongement de l'arrestation musclée d'un groupe de manifestants lundi soir dernier à Paris, l'une des 7 personnes appréhendées a décidé de poursuivre l'agent qui semble le maltraiter dans l'enregistrement diffusé par nos confrères de Loopsider. Souleymane, c'est son nom, interpellé pour participation à un attroupement en vue de commettre des dégradations de biens, nous raconte sa version des faits.
Je dépose plainte aussi contre le traitement spécial qui m'a été réservé. Ils voulaient m'agresser, ils voulaient me parler. Ils ont commencé à me frapper, j'ai été le seul à être frappé. Ils m'ont demandé de m'asseoir. Au moment où je vais m'asseoir, il a essayé de me frapper pour que je tombe. Après, ils m'ont demandé de se lever pour la palpation. Il m'a attrapé vers le partie génitale et il m'a dit « t'as pas de couilles » et tout. Il commençait à m'insulter tout de suite. Quand nous, des personnes de couleur, des personnes des banlieues, dans les manifestations, tout de suite, la police, ils veulent nous arrêter, nous. C'est comme si on est leur cible finalement.
Souleymane, au micro de BFM TV, une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet de Paris pour violence et menaces.
7h04, les sports, Maxime, et à la une des duels régionaux épicés en rugby.
Avec en tête de liste dans cette 21e journée de Top 14, la gifle rochelaise infligée à Bordeaux dans un duel de l'Ouest délocalisé pour l'occasion au Matmut Atlantique. Les champions d'Europe ont étouffé l'UBB, se payant même le luxe de prendre le point de bonus offensive à la 74e minute. 36-6, c'est le score final, le 6e succès à l'extérieur des Maritimes qui satisfait le talonneur Pierre Bourgarit.
C'est une belle performance, on ne va pas se le cacher. On savait que, vu l'état actuel du classement avant le match, on savait que si on avait l'intention et l'envie de vouloir être dans le top 2, ce qui est notre intention cette saison, ça serait bien de passer par une victoire ici. Alors si on avait gagné 1-0, on aurait pu gagner 1-0, on aurait été tout aussi content.
Pierre Bourgarit au micro de Nicolas Paolorsi. Ce soir, c'est un autre derby francilien, celui-là, qui va mettre aux prises le Stade français et le Racing 92.
Le cyclisme belge en pleine semaine sainte.
Oui, ils l'appellent comme ça, nos confrères belges. La troisième des cinq classiques flandriennes se déroule aujourd'hui. Ganvevelgem, 260 km chargés d'histoire, puisque les coureurs passeront en plein dans les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. L'histoire, l'hommage et la fête aussi, avec ses courses courues sur les pavés et adulées par le public flamand. Si l'apothéose aura lieu dimanche prochain sur le Tour des Flandres, Arnaud Souk, cette semaine offre à voir une ferveur sans commune mesure sur les bords de la route.
Oui, le vélo est ici un mode de vie. Les courses cyclistes flandriennes, une tradition presque religieuse. Hugo Courvitz les suit, ses courses, depuis plus de 30 ans comme journaliste pour le quotidien belge Le Het Nieuwsblad.
C'est dans l'ADN des Flamands. C'est comme Noël, c'est comme Pâques. À la boulangerie, aux boucheries, ça parle partout qui va gagner. Est-ce que Van Aert peut gagner? Est-ce qu'un Belge peut gagner? C'est hot en Belgique, oui.
Des discussions à une ferveur d'ailleurs alimentée ces dernières années par une génération exceptionnelle de grands champions.
Extraordinaire, en tout cas de ce que j'ai vécu, moi.
Conséquence, la route était déjà noire de monde avant. Avant-hier, vendredi, pour le Grand Prix d'Arelbeek, autre grande classique flandrienne, comme en témoigne les Van Aysen, coureur professionnel flamand.
Dans mes 9 ans pro, j'ai jamais vu autant de monde sur la course, mais bien sûr, ça vient du rivalité Van Aert, Van Der Poel, le poivre qui s'appelle Pogacar, tout ça, ça fait sortir les gens encore plus que dans l'époque Bonen-Kanchlala.
Nombreux aujourd'hui lors de Ganvevelgem, les Belges devraient frôler le million au bord de la route dimanche prochain pour le Tour des Flandres.
Des supporters qui soutiendront aujourd'hui le local Wout Van Aert, titré vendredi lors du GPE3 et qui retrouvera probablement Mathieu Van Der Poel, le néerlandais, pour un nouveau duel qui promet.
Et puis des deux roues toujours, mais avec moteur. Cette fois, ça remet les gaz au Portugal.
Exactement, le premier des 21 Grands Prix de la saison de MotoGP s'élancera du Portugal avec deux Français, Joan Zarco et Fabio Quartararo. Ce dernier champion du monde en 2021 et deuxième l'an passé vise le titre, mais il sera seul contre tous et notamment contre les Ducati. Valentin Jamin.
Oui, lors des derniers essais avant la saison, le pilote Yamaha a fini troisième, entouré de 7 motos Ducati dans le top 8. Mais le Niçois semble rassuré par la puissance de sa machine, principal défaut en 2022.
Le plus important, c'est la vitesse de pointe. Le reste, on a un petit peu plus de temps pour le gérer. Yamaha a fait un très gros travail. L'année dernière, c'était chiant. On avait tellement de difficultés sur la moto et voir autant de Ducati devant.
Le tricolore n'a presque pas coupé cet hiver entre vélo, motocross et musculation. Il veut le titre.
J'ai pas peur de le dire parce que c'est un objectif clair. Je m'entraîne pour une chose, c'est de gagner. On ne sait pas si on va le faire, mais en tout cas, il faut partir avec cette mentalité.
Il risque de se battre seul face à toutes ces Ducati et leurs pilotes, comme le champion du monde en titre, Pecco Bagnaia. Pas un souci pour son manager, Eric Mahé.
Si on perd, on sera tous déçus. Par contre, si on gagne avec une machine dont tout le monde sait qu'il y a une certaine lacune, le mérite du pilote n'en est que plus grand.
Et cela tombe bien, Quartararo reste sur 2 victoires à Portimao.
Et sur la grille de départ à Portimao, le Français s'élancera depuis le milieu de la grille. C'est Marc Marquez qui sera en pole position. L'Espagnol aussi titre mondial a devancé hier en qualification Francesco Bagnaia, le champion du monde sortant.
C'était le journal de Maxime Gras. Merci Maxime, RMC. Et là, avec vous, on vous accompagne. Bon dimanche à tous, de l'info, du débat et dans un instant, Mathieu.
Cette petite phrase qui en dit long. Ce que disent les opposants à la réforme des retraites doit être entendu. Parce que les opposants sont nos concitoyens. Qui dit cela? C'est Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre. Tac, l'adresser directement à la majorité. Et donc à vous, Benjamin Haddad. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député Renaissance de Paris et vous allez répondre à Édouard Philippe dans 2 minutes sur RMC.
RMC, 6h-9h, la matinale week-end.
Marguerite Dumont, Mathieu Rouault.
Bon réveil à tous, c'est la matinale week-end sur RMC. Il est 7h40.
L'invité du jour.
Notre invité ce matin, le député Renaissance de Paris, Benjamin Haddad.
Bonjour Benjamin Haddad.
Bonjour.
On n'est pas passé loin hier, pas passé loin de la mort à Sainte-Soline. Trois manifestants, deux gendarmes toujours hospitalisés ce matin en urgence absolue. 200 blessés, dont une quarantaine avec des plaies délabrantes. Violence côté manifestants, rarement vue en France, avec des mortiers d'artifice, des chandelles romaines, des cocktails Molotov. violence aussi dénoncée du côté des forces de l'ordre, on va y revenir. On n'arrive plus à maintenir l'ordre en France, Benjamin Haddad ?
Non, mais le sujet surtout, c'est que là, on a des manifestants qui étaient venus manifestement avec l'objectif de casser, avec un objectif de violence. Quand vous avez des gens qui viennent pour une manifestation, un regroupement illégal, contre un projet d'ailleurs qui a fait l'objet longtemps de contentieux devant la justice et qui a été validé, qui a fait l'objet d'une concertation, on pourra en parler plus dans le détail, dont les agriculteurs ont besoin pour faire face aux sécheresses, pouvoir stocker l'eau.
Débat qui est complètement éclipsé par ces violences.
Débat qui est éclipsé, vous avez raison. Mais précisément d'ailleurs, on pourrait avoir un débat. Là, on n'a pas de débat, on n'a pas de militants.
Vous pensez que c'est la volonté des militants, des manifestants d'éclipser le débat ?
Leur volonté, c'est de venir pour casser. Quand vous venez avec des battes de baseball, du mortier, des boules de pétanque, des couteaux, et évidemment, vous venez dans un objectif de violence. Donc, les policiers et les gendarmes, il y a eu 24 gendarmes qui ont été blessés, quelques-uns graves, vous avez raison, viennent et c'est leur responsabilité de maintenir l'ordre et de répondre à ces troubles.
Avec 4000 grenades de gaz lacrymogène, de désencerclement en utilisant des LBD, ça n'est pas de la violence ?
Et encore une fois, là, on a une manifestation qui est illégale, avec des militants qui viennent armés jusqu'aux dents.
Il faut y répondre
des battes de baseball,
tous les moyens.
Mortier. Il faut le contenir, il faut y répondre. Les gendarmes, les forces de l'ordre, et je leur rends hommage parce qu'ils sont assez courageux dans des circonstances qui sont très difficiles, mais ils font ce qu'ils peuvent, effectivement, ils prennent leurs responsabilités, c'est leur rôle de contenir et de mettre fin à ces violences. On a là des manifestations illégales, je pense qu'il n'y a absolument pas de débat.
Quand Jean-Luc Mélenchon ou Marine Tondelier, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, dénoncent tout de même l'utilisation de quads hier à Sainte-Soline par les gendarmes, dénoncent aussi la fameuse Brave M maintenant depuis lundi, la brigade motorisée. Il n'y a pas de problème avec ce genre de brigade, avec ce genre d'outils.
Mais il y a bien un problème dans le comportement d'élus NUPES aujourd'hui qui se font les apôtres de la violence. Il y avait des députés de la NUPES hier à Sainte-Soline avec les casseurs, avec ceux qui venaient avec des battes de baseball, des couteaux pour encourager la violence. Vous avez la même chose, sorte de contextualisation de la violence qu'on a vue dans les rues de Paris ces derniers jours de la part d'élus de la NUPES.
Mais comment
j'ai vu même des tweets qui sont invraisemblables. Enfin, je vais vous donner juste un exemple. Ma collègue Aurore Berger a reçu un courrier d'une violence inouïe.
Où on intimide et on menace de mort son enfant de 4 mois.
On menace son enfant de 4 mois. Vous avez un député de la France Insoumise qui répond, eh bien Emmanuel Macron n'a qu'à retirer sa réforme.
Benjamin,
je veux dire, c'est là, j'entends qu'on est des oppositions, et d'ailleurs, je tiens quand même à le préciser, il y a l'immense majorité des manifestations qu'on a vues ces dernières semaines se sont déroulées dans le calme, de façon pacifique, dans le respect. Tout le monde a rendu
justement,
hommage.
Justement, comment vous expliquez qu'on bascule dans la violence ?
Mais on bascule pas, attendez.
Parce que tout d'un coup, des casseurs arrivent ou parce que tout d'un coup, on déclenche le 49-3, ce qui attise aussi certaines tensions ?
Il y a des gens qui sont là pour casser. Mais rien ne peut le contextualiser ou justifier. Et encore une fois, on distingue les manifestants qui sont là dans le calme et dans le respect, qui ont un message à faire passer. Mais vous avez des gens, des black blocs, des militants d'extrême gauche, peut-être des militants d'extrême droite, comme ce qu'on a vu à la mairie de Bordeaux, qui sont là pour promouvoir la violence.
Ça n'est pas encore confirmé pour Bordeaux, l'enquête se
prend. En effet.
David veut vous interpeller au 32-16. Bonjour David.
Oui, bonjour.
Vous êtes conducteur routier, David. Les manifestations contre la réforme de la traite qui dégénèrent en violence, le fait de casseurs ou aussi une conséquence du 49-3?
Bonjour. Bon, à l'effet des casseurs, oui, on peut bien sûr mettre ça, comme d'habitude, sur le dos des vilains casseurs ou des vilains gauchistes de la gauche, de l'extrême gauche, de la NUPES, comme j'ai entendu tout à l'heure. Moi, j'étais en manifestation, j'ai pu être témoin que, effectivement, il y a des antifas en tête de cortège, hein, ça n'est pas de problème, on les voit, ils sont clairement identifiés, il n'y a pas de souci.
Où ça, en manifestation?
Sur Rennes. Oui. Sur Rennes. Mais dans les cortèges aussi, j'ai vu des gens de tous âges, de toutes catégories socio-professionnelles. Il y a des gens en colère, des gens qui sont contre le 49-3 parce qu'ils ont l'impression qu'on leur vole 2 ans de leur vie, des gens qui sont en colère parce que ça fait plus de 3 mois qu'on se mobilise contre une réforme de retraite que personne ne veut, que le gouvernement ne nous écoute pas. Comme je disais chez Apolline, on se demande même s'ils ouvrent la fenêtre pour voir qu'il y a un peu de bruit dehors. Il y a un service communication qui est juste désastreux. Personne n'ose lui dire de ne pas parler parce que ça empire les choses à chaque fois. Il a un mépris pour les gens. C'est pas supportable d'entendre. Je sais pas s'ils se rendent compte qu'au-delà du 49.3, il y a aussi toute la colère qui se grève du déclassement.
Il faut absolument maintenant vous écouter, David, pour relâcher la pression.
Bah ouais. Je pense que le 49.3, va falloir qu'il pense à le mettre ailleurs. Hein, je ne vais pas dire où, mais voilà.
Benjamin Haddad, qu'est-ce que vous dites à David qui vous répète une nouvelle fois ce matin ? Écoutez-nous.
Non mais, attendez, moi j'entends, et d'ailleurs on va peut-être parler de la suite, de la façon dont on peut aussi répondre à cette colère. Ce débat sur les retraites, il a aussi révélé énormément de questionnements sur le sens du travail, sur les inégalités, sur nos services publics, que ce soit la santé, l'école, sur la question écologique aussi. Je vois des manifestants qui parlent d'écologie, ils ont bien raison. Bon, donc ça, c'est des chantiers sur lesquels la pire des réponses, d'ailleurs, ce serait l'immobilisme.
Mais moi, sur les retraites, pour le moment, le débat est clos.
Mais sur les retraites, et d'ailleurs, je voudrais dire, à un moment dans notre pays, on a des institutions démocratiques, on a une constitution. Si les oppositions veulent s'opposer à la réforme des retraites, eh bien, elles peuvent faire campagne à la prochaine élection.
Et c'est pas que les oppositions, Benjamin Haddad, c'est les Français comme David aussi.
Mais j'entends bien, mais ce que je veux dire simplement, c'est que, d'ailleurs, ce serait rendre un bien mauvais service aux opposants à la réforme des retraites, aux manifestants, que de les mêler aux quelques casseurs qui sont venus pour promouvoir la violence et pour brûler des bâtiments publics.
Benjamin Haddad, il y a aussi la question d'écouter vos concitoyens. Et c'est d'ailleurs ce que dit Édouard Philippe. Il y avait son rassemblement Horizon hier, c'est son parti, qui dit les opposants à la réforme doivent être entendus. Ce sont nos concitoyens. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Mais le président de la République n'a pas dit l'inverse. Au contraire, il y a quelques jours à la télévision. Quand le président de la République dit précisément déjà qu'on doit prendre quelques semaines pour réfléchir à la façon dont on peut mieux travailler avec les oppositions à l'Assemblée nationale dans une situation de majorité relative, avec les partenaires sociaux à qui il a tendu la main, quand il a ouvert quelques chantiers dont je viens de parler, il y a la question du pouvoir d'achat à laquelle on a essayé d'apporter des réponses déjà depuis quelques mois, mais il y a d'autres chantiers. Mais
Benjamin,
je vous dis précisément
tout va bien. Elisabeth Borne dit hier, nous avons fait ce que les Français attendaient de nous. Le président de la République et vous-même ce matin, on va se concentrer sur les prochains chantiers. Elisabeth Borne qui ajoutait hier, on va élargir notre majorité et conclure des contrats avec les uns les autres. Tout va très bien.
Mais je vous ai jamais dit ça, au contraire, puisque je vous dis au contraire qu'il faut qu'on apporte des réponses concrètes et que l'immobilisme face à ces situations serait la pire des réponses. Non, non, il faut continuer à travailler. En revanche, est-ce que parce qu'on voit cette opposition, parce qu'on voit ces manifestations, on peut mettre la poussière sous le tapis, dire il n'y a pas de déficit à notre système de retraite ? Est-ce qu'on peut dire 150 milliards de déficit sur 10 ans, c'est pas grave, et finalement, écoutez, on fait ce qui est le plus facile, on laisse à notre successeur ? On doit gouverner en fonction des sondages d'opinion et voir que c'est une réforme qui effectivement est impopulaire. Mais à ce moment-là, il faut plus l'assumer.
Vous avez vu,
il faut la laisser aux autres. Est-ce qu'on peut simplement dire, écoutez, les Français travaillent en moyenne moins que leurs voisins, mais c'est pas grave, ça n'aura aucune incidence sur la qualité de nos services publics, ça n'aura aucune incidence sur la croissance. Mais bien sûr que non. Mais vous savez d'ailleurs, je veux dire, au-delà de ce débat sur les retraites, moi je crois qu'on paie quand même des dizaines d'années de mensonges et de renoncements, où on a expliqué qu'on pouvait travailler moins, mais ça n'aurait aucun impact sur la création de richesses, ça n'aurait aucun impact sur nos services publics, l'investissement dans nos services publics.
Donc c'est le courage d'Emmanuel Macron qui s'exprime aujourd'hui.
Mais bien sûr qu'il a du courage. Bien sûr qu'il a du courage, puisque quand vous menez une réforme qui est impopulaire, quand vous menez une réforme qui est nécessaire et que tant d'autres ont décidé de repousser précisément pour ces raisons, eh bien oui, effectivement, ça demande du courage. Et de la même façon, on a menti quand on expliquait qu'on pouvait avoir la fiscalité la plus élevée d'Europe, mais que ça n'aurait aucun impact sur l'industrialisation du pays, que les emplois n'allaient pas partir, que les usines n'allaient pas fermer. Mais on voit aujourd'hui. Donc effectivement, on mène une politique à un moment de vérité, de responsabilité,
courageuse,
qui est difficile, mais qui est courageuse.
On retiendra ce mot, le courage d'Emmanuel Macron, Benjamin Haddad. On retiendra aussi que vous êtes prêt à dialoguer, à écouter les Français, mais plus forcément sur cette réforme des retraites. Ça vous fait réagir, comme David qui nous a rejoint au 32-16. N'hésitez pas, on en parle avec vous jusqu'à 9h. Merci Benjamin Haddad.
Merci.
Député Renaissance de Paris, merci d'être avec nous ce matin sur RMC. 8h10.
À suivre dans la matinale week-end.
Vous avez faim ? Ça tombe bien. Déjeuner 100% planète et petit budget compatible.
Ce sera dans votre coup de main conso, Marguerite, dans une minute sur RMC.
RMC, la matinale week-end.
Allez, 7h52, bienvenue sur RMC. Dans deux minutes, on va aller au théâtre avec le coup de cœur de Peggy Broche ce matin, un one-woman show intitulé « Que faire des cons ?» Tout un programme dans le bonus RMC dans deux minutes. Mais d'abord, on passe à table.
Avec plaisir.
RMC, le coup de main conso.
À table avec vous, Marguerite, coup de main conso pour défendre notre pouvoir d'achat. Le samedi et le dimanche, on passe à table avec le GIEC, le groupe d'experts sur l'évolution du climat, qui a rendu son 6e rapport cette semaine avec ce mot d'ordre « Mangez mieux pour sauver la planète ». Est-ce que c'est possible à pas cher ?
Je suis venue avec des solutions concrètes, Mathieu. RMC, avec l'aide d'Adrien Henrier de la Société d'éducation alimentaire On mange quoi ? Vous a concocté un petit déjeuner du dimanche, 100% nourrissant, planète et petit budget compatible.
Concrètement, un menu majoritairement végétal, sans pesticides, varié, saisonnier, local, circuit court.
Un quart des émissions en France sont dues à l'alimentation. Circuit court, c'est donc le mot à retenir pour limiter la pollution. Les frais liés au transport et aux intermédiaires, c'est important.
Donc on achète proche de chez soi, mais concrètement, qu'est-ce qu'on mange ?
Tentons de prendre des lasagnes, hein, ouais, les lasagnes à 2,99€. Hop, on les met dans le four et c'est prêt. Oui, mais c'est industriel, trop de viande qui vient de loin. Voici l'alternative, et pour moins cher en plus.
On peut imaginer un curry à base de riz complet, de pois chiches, de carottes, et une sauce à base de crème de soja, parce qu'on en produit du bio en France maintenant, de thym séché, de citron et des épices. Avec tout ça, on a une part par personne à 78 centimes, contrairement à 75 centimes pour la lasagne industrielle.
Ça m'a l'air pas mal, tout ça. Moi, j'achète. Si je veux mettre un peu de verdure avec.
Eh ben, on peut faire très simple.
Une belle salade verte avec une botte d'herbe de saison, un filet d'huile d'olive, un tour de poivre, un tour de sel, rien de plus.
C'est tout simple. Il n'y a même pas besoin de savoir cuisiner, en plus.
Ben non, c'est tout l'avantage.
Pour le dessert?
Eh ben, c'est pareil. Pas besoin de savoir cuisiner. Déjà, on évacue de son frigo la crème dessert à 80 centimes les quatre. Très mauvaise pour la santé, et on se fait plaisir sans se ruiner toujours.
La meilleure option reste quand même un fruit de saison, parce qu'il y a ce côté sucré, au final les enfants, les adultes aussi adorent. Ou sinon, un yaourt fermier avec un petit peu de miel ou de confiture.
Le coût total du déjeuner, entre 2,38€ et 2,18€, c'est ce que j'ai calculé, c'est par personne évidemment, et selon les options, et c'est à peu près 15 centimes plus cher qu'un repas industriel. Mais on investit dans sa santé, son plaisir, et petit bonus, on fait des économies à moyen et long terme.
Comme on mange des aliments qui sont pleins de nutriments, bah on a une sensation de satiété qui est plus prolongée et on a moins tenté aussi de snacker entre les repas. C'est absolument tout bénef.
Maintenant, on va faire ses courses. Il faut trouver le bon magasin. Je suis là pour vous donner quelques astuces. Si vous habitez en milieu rural, pas de difficulté. On est près des producteurs. On y va. En milieu urbain, il y a de plus en plus de magasins spécialisés. Quelques exemples. La Ruche qui dit oui, Locavor, les applis anti-gaspi aussi. Et puis, les grandes surfaces qui ont maintenant toutes leurs rayons locaux. À vos fourneaux, on prépare le repas du dimanche.
Rien de plus simple. Et d'ailleurs, Juliette confirme sur l'appli RMC, chez nous, aucun plat cuisiné, jamais que du fait maison.
Bravo Juliette.
Avec des produits qui viennent de tout près, de chez nos producteurs locaux.
Et je peux me permettre, parce que je me suis fait aussi interpeller sur notre application RMC, où on me dit, oh, on veut pas manger que des légumes, mais il n'est pas question de manger que des légumes. On peut aussi manger du poisson de saison et un peu de viande. Il n'y a
Merci
pas de problème.
Marguerite, votre coup de main qu'on soit retrouvé en podcast sur l'appli RMC, 8h05.
Le bonus RMC.
Et c'est avec vous, Peggy, que faire des cons ? Vaste question, je ne sais pas si j'ai la réponse, mais c'est surtout le nom de votre spectacle coup de cœur ce matin.
Alors c'est le 3e spectacle de Sandra Colombo. Que faire des cons ? Comment les repérer ? Comment vivre avec ? Comment s'assurer qu'on n'en est pas un soi-même ? Bon, ça c'est une autre histoire. Sandra Colombo a quelques réponses après avoir passé du temps dans les rayons de développement personnel. Vous savez, ce livre où on vous donne le secret du bonheur. Ça vous parle, Mathieu ? N'hésitez pas, allez la voir, c'est super drôle, c'est plein de finesse. C'est intelligent, parfois plus léger, avec des références sur l'actualité, très ancrées dans la réalité, et on se sent concerné. Allez, un peu de légèreté, justement, extrait.
Vous imaginez le bonheur au rayon yaourt, fini de errer, de dans le rayon. Alors, chèvre, brebis, soja, avoine, coco, aux fruits entiers, aux fruits mi-entiers, aux fruits mixtes, aux fruits mi-mixtes, aux fruits mi-mixtes,
Elle est drôle, engagée, féministe, émouvante, pertinente, juste. Sandra Colombo, elle a été révélée grâce à au grand public, grâce à les Qui c'est qui a fait ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était dans On ne demande qu'à en rire avec Laurent Ruquier. Que faire des cons, le One Woman Show de Sandra Colombo à voir le 31 mars au Théâtre du Marais. C'est à Paris, le 29 avril à la Nouvelle Scène, le 24 mai au Point Virgule, tout le mois de juillet au Festival d'Avignon au Théâtre de Notre-Dame. Vous n'avez pas tout retenu ? Allez sur ses réseaux sociaux, Sandra Colombo, et nous noter qu'elle vient de sortir un livre, Faites l'amour dès le premier soir, coécrit bon avec conseil. Marie Guibourg chez First.
Elle a l'air irrésistible. Merci Peggy Walsh. On est toujours le con d'un autre, hein, sachez-le. Allez, bientôt 8h, on va retourner en direct à Sainte-Soline dans notre journal avec nos envoyés spéciales. Et puis juste après, le témoin du jour à 8h10.
Les forces de l'ordre accusées de violences criminelles par des manifestants après les affrontements d'hier. La porte-parole de la gendarmerie, leur réponse ce matin sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
La matinale week-end.